philosophie éthique par le père Philippe le 21 octobre 1987 à Saint-Jodar.
Nous avions commencé la dernière fois à poser cet aspect particulier de l'éthique, philosophie morale, la branche pratique de la philosophie. Donc, j'allais dire, pour nous, dans notre vie, ce qui doit nous apporter une certaine lumière sur ce que représentent nos activités humaines. Alors j'avais posé comment naît l'éthique. Pourquoi l'éthique? Dire que traditionnellement, philosophie, on parlait de l'éthique, ce n'est pas une raison philosophique. Oui, pour le chrétien, c'est très facile. Pour le chrétien, c'est très facile. On sait bien. Il y a eu les commandements de Dieu. Les commandements de Dieu fondent la morale pour le peuple d'Israël. Un seul Dieu, tu adores. Tout commence par l'adoration. Et puis après, la justice. Tu ne prendras pas le bien du voisin, et ni sa femme. C'est encore son avoir. Les commandements de Dieu donnés à Moïse fondent l'éthique religieuse du peuple d'Israël. C'est simple, je crois que Dieu nous a donné l'étape du commandement de Dieu. Comment? Je n'en sais rien. C'est écrit avec le doigt de Dieu. Le jour où on redécouvrira l'étape de la loi, vous voyez ça? Les jours où on redécouvrira, parce qu'on les a perdus. Ce cadeau de Dieu a été perdu. Dans ce vide, dans ça. Puis ça, Israël redécouvrant les dates de la loi, redécouvrant l'arche avec les dates de la loi. C'est vrai. Mais au point de vue philosophique, je veux dire au point de vue de la foi, l'éthique existe, c'est Dieu qui nous éduque. Et voyez qu'au fond, l'éthique apparaît au plan religieux. Plan du croyant, comme immédiatement l'éducation de Dieu sur moi. Dieu m'éduque. Si Dieu ne m'éduquait pas, j'aurais ma responsabilité propre. Mais si Dieu m'éduque, c'est parce que j'ai beaucoup de peine d'avoir ma responsabilité. Ce qui montre que l'homme laissé à lui-même a besoin d'un tuteur. Il ne va pas très loin. Autrement, Dieu ne serait pas dérangé pour donner l'étape de la loi. Or, au plan philosophique, j'essaie de comprendre pourquoi une philosophie morale. Pourquoi une philosophie morale? Est-ce que c'est nécessaire qu'il y ait une philosophie morale? Je crois que la nécessité de la philosophie morale apparaît avec la responsabilité. Je crois que c'est ça qui me fait tout de suite penser qu'il y a une philosophie morale. La responsabilité. La responsabilité dont j'ai l'expérience dans l'amour d'amitié. L'expérience majeure de ma responsabilité, c'est l'amour d'amitié. J'ai d'autres expériences. Le devoir. Quand on dit « tu dois faire ça », et le devoir me donne une responsabilité. Mais le devoir repose sur l'autorité. C'est quelqu'un qui me dit, tu dois faire ça. Si j'étais seul, hein, est-ce que si vous étiez seul, vous diriez, je dois me lever à 6 heures tous les soirs, je dirais, ce soir je suis très fatigué, je me suis levé tôt. Bon, je me le ferai un peu plus tard demain. Et puis le lendemain, je suis encore très fatigué, je me le ferai un peu plus tard demain. C'est vrai, on serait tous comme ça. Voyez, la difficulté de cette auto-éducation qui a posé un gros problème philosophique. Nous avons donc deux sources où la responsabilité naît, l'amour d'amitié et puis le devoir. Et c'est vrai, la responsabilité naît des deux côtés. Mais le devoir fait appel à l'autorité, le devoir fait appel à la communauté. Tandis que l'amour d'amitié fait appel uniquement à ma personne. Alors on pourrait peut-être deux sources qui me font naître, qui me font apparaître la morale. Deux sources. L'une, l'amour d'amitié. L'autre, le devoir. Et je crois qu'en effet, on peut prendre les deux. Parce que, de fait, concrètement, je suis né dans une famille. Légitime ou pas légitime, peu importe, ça n'a pas d'importance au plan philosophique. Je suis né dans une famille. Et si c'est pas ma famille, c'est une famille d'adoption. Et si c'est pas une famille d'adoption, c'est l'État qui m'a adopté. Mais au fond, je suis né dans une communauté. Et si une louve m'a emporté dès ma jeunesse, je suis né dans une communauté de loups. Ça arrive. Et si je suis né dans une communauté de loups, j'ai eu beaucoup de peine à découvrir le sens moral. Vous savez, ce livre sur l'enfant sauvage, dont les conclusions sont fausses, hein, mais les faits sont intéressants. C'est très intéressant de comprendre ce que c'est peut-être un petit enfant emmené par une louve. Vous voyez, les souvenirs point de vue psychanalytique de l'enfant emmené par une louve. Premier regard. Premier sourire. Il ne sourit pas du reste. Il ne sourit pas. Il ne peut pas sourire. Parce que la louve ne sourit pas. Alors l'enfant ne sourit pas. Il aboie. Pas la même chose. Mais c'est vrai, c'est très curieux ça. Et au fond, on s'aperçoit là que c'est enfoui. Donc, voyez les deux sources. Hein. Ça, j'ai pas assez insisté la dernière fois, mais je vous le dis maintenant. L'amour d'amitié et puis le devoir. Mais je crois que le devoir ne suffit pas. C'est l'amour d'amitié qui, en définitive, va suffire. Puisque l'amour d'amitié présuppose la justice et la justice ne rend pas compte de l'amour d'amitié. Or, le devoir, c'est la justice. Tu dois faire ça. Tu dois prendre ta soupe. C'est le premier devoir que vous avez entendu, ça. Et si la soupe était mauvaise, tu n'auras pas de dessert. Il faut que tu finisses ta soupe. Si vous aviez au moins quelqu'un qui avait un peu d'autorité auprès de vous, s'il y avait quelqu'un qui n'avait pas tout... Oh mon pauvre petit, ça n'a pas d'importance. Demain, elle sera bonne, la soupe. Alors laisse-la de côté. Et puis après, c'est dans... Oh, c'est pas bon, ça n'a pas d'importance. Le dessert, au moins, sera bon. Et là, on fait un enfant gâté, vous voyez, qui tout de suite va au dessert. Il oublie l'ordre. C'est vrai, il y a l'amour d'amitié et l'expérience de la justice. Je crois qu'on peut mettre les deux sources. Qui sont les deux sources de la responsabilité. Bon, j'ai surtout insisté l'année dernière sur l'amour d'amitié. On peut compléter par le point de vue de la justice. Vous voyez, je dis ça à cause de toutes les morales du devoir. Et il y a quelques ça, tu dois faire ça. Le devoir, l'expérience du devoir. Alors, on a bien les deux sources. Les deux sources de la morale, vous savez. Hein, il y a quelqu'un qui a dit ça. Les deux sources de la morale. Les deux sources. Une morale ouverte. Une morale fermée. Une morale ouverte, l'amour d'amitié. Une morale fermée, le devoir. Et c'est très vrai, ça. Et alors, quand vous ne voyez que le devoir, vous restez dans l'immanence d'une morale. Le devoir, c'est toujours dans la communauté. Toute communauté a ses devoirs. Toute communauté apprend une responsabilité. Et puis l'amour d'amitié, qui est l'aspect personnel. Vous voyez, on unit les deux par le point de vue de la communauté, c'est la nature humaine. Puis l'autre, c'est la personne. Morale de la personne, morale de la nature. Ça ne s'oppose pas, ça se complète. La nature nous donne le sens du devoir. Ça, c'est sûr. On fait partie d'une communauté. Et on fait tous partie d'une communauté. Mais quand on fait partie d'une communauté de loups, ça ne va pas jusqu'à la responsabilité. On évite d'être mangé, c'est tout. Et on désire manger. C'est une morale très très succincte. La morale qui existe chez les loups. Et l'éclosion de la morale, c'est dans la responsabilité. Une responsabilité dans l'ordre de la justice. Vous voyez ? Si tu ne fais pas ça, un autre sera obligé de le faire à ta place. Et s'il n'y a pas d'autre, toute la communauté en pâtira. Celui qui te cuisine aujourd'hui dit « j'en ai marre ». Alors, un autre devra le faire. On dira vite, vite, vite. Il boude aujourd'hui, une mauvaise humeur. Il dit qu'il est fatigué. Bon, alors il faut qu'un autre le remplace. Et s'il n'y a pas d'autre, on dit, oh, tant pis, tant pis. Toute la communauté arrive à midi. Il en avait marre, le cuisinier. Alors, vous avez un repas très particulier. On cherchera vite, vite, à toute vitesse quelque chose, ben, dans les provisions. Ah, il reste un peu de lait, il y a des tas de choses comme ça. Mais bon. Vous voyez, la morale communautaire, le sens de la responsabilité, tu dois faire ça. Et c'est une des sources de la morale. Mais ça ne va pas très loin. Tandis que l'amour d'amitié, oh, ça touche le bonheur, l'épanouissement plénier. Aristote commence sa philosophie éthique par le bonheur. Et nous commençons par l'amour d'amitié. Mais en même temps, nous mettons l'autre source, le devoir, l'expérience du devoir, l'expérience de ce qu'on doit faire, l'expérience d'un acte de justice. Donc toujours ces deux expériences. Et je crois que c'est juste, parce que l'une est personnelle. L'autre, on est parti d'une communauté. Et donc, on est parti d'une communauté. On est lié à cette communauté. Et cette communauté a sur nous quelque chose. Alors, vous voyez, c'est intéressant parce que par le devoir et par la nature, l'éthique est très liée à la politique. Puisque c'est une communauté. Et c'est pour ça que pour mieux mettre en relief que l'éthique est personnelle, il faut toujours insister sur l'amour d'amitié. Parce qu'une morale uniquement de justice fait le lien entre éthique et politique. Et vous avez Platon. Pour Platon, l'éthique est politique. Parce que l'éthique est née à la justice, est née dans la justice. Et ça, c'est très important de bien saisir ces deux aspects. Parce que vous savez bien qu'aujourd'hui, si je regarde aujourd'hui le problème éthique aujourd'hui veut se situer uniquement au niveau personnaliste de la personne. Et on oppose une éthique de la nature à l'éthique personnelle. Et les antithomistes, il y en a toujours quelques-uns, disent l'éthique de saint Thomas est une éthique de la nature, ce qui est tout à fait faux. L'éthique de saint Thomas est une éthique théologique. C'est une théologie morale qui repose sur la personne, l'imago Dei, l'image de Dieu qui est en nous, le dominium. Je suis maître de mes activités, ça c'est la personne. Mais cette personne assume une nature. Et donc, cette théologie morale, elle est bien personnaliste. Elle assume une nature. Bon, ça c'est saint Thomas, panthéologien. Aujourd'hui, étant donné cette opposition dialectique entre personne et nature, il faut repenser le problème de l'éthique à partir de l'expérience et comprendre qu'en effet, vous avez deux types d'expériences sur la responsabilité. Vous êtes responsable d'une personne dans l'amour d'amitié. Vous êtes responsable d'une œuvre que vous devez accomplir pour la communauté. Et là, vous avez deux expériences différentes. L'une en tant que partie d'une communauté, l'autre en tant que dominant la communauté. Toute personne domine la communauté. Et en tant que vous êtes partie de la communauté, c'est votre nature. Vous voyez, je crois que c'est très important de développer ces deux aspects parallèlement. Le problème se pose. Y a-t-il dans l'éthique différents niveaux de responsabilité? Autrement dit, suis-je obligé en éthique de dire qu'il y a des niveaux différents d'éthique? Comme il y a des degrés de vie, il y a différents degrés d'éthique. Alors ne faites pas le parallélisme grossièrement. L'éthique végétative qui consiste à manger ce qui est nécessaire pour garder la ligne, n'est-ce pas? Alors l'éthique végétative, l'éthique passionnelle et l'éthique spirituelle. Non, c'est tout à fait autre chose. L'éthique n'existe que dans la responsabilité, donc tout acte volontaire. S'il n'y a pas d'acte volontaire, il n'y a pas d'éthique. Ça c'est sûr. Quand vous commencez à perdre la tête, ce que vous faites n'est plus éthique. C'est instinctif. C'est des vieux réflexes. Dans le sommeil, toutes les imaginations qui peuvent venir ne sont pas éthiques. Vous pouvez être un tout petit peu responsable si vous avez pris un trop bon repas le soir. N'est-ce pas bien arrosé? Alors, vous allez avoir peut-être un cauchemar effrayant parce que vous avez trop mangé. Alors, il y a manqué un peu de prudence. Surtout si le lendemain, vous devez faire quelque chose d'important. Oui, alors il peut y avoir là une petite prudence. Mais normalement, ce qui se passe dans le sommeil n'est pas éthique. L'éthique n'émerge qu'avec le volontaire. C'est le volontaire qui l'acte volontaire, donc l'acte d'amour, puisque le volontaire, c'est toujours un acte d'amour spirituel. Mais ça se noue autour de la responsabilité. C'est la responsabilité qui me donne le sens de l'acte volontaire. Alors, je dois me poser la question maintenant, existe-t-il des degrés éthiques? Ce qui est une question extrêmement importante. Et qui n'est pas assez développé aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait en gros ceci. En gros, l'éthique laïque. L'éthique laïque qui n'est pas le synode des laïcs. Tout à fait autre chose. L'éthique laïque. Oui, puisque le mot laïque prend des significations tellement multiples et diverses. L'éthique laïque. Et puis l'éthique chrétienne. Ou plus exactement. Pour les autres, prenez pour le mariage. L'éthique laïque consiste à se marier devant le maire. Huitième sacrement. Vous mariez devant le maire. Ou la mairesse, c'est des mots. Vous mariez devant le maire qui vous donne un bouquet. Et qui, quand c'est une mairie extrêmement chic, peut prendre le champagne. C'est plutôt rare. Alors, c'est l'éthique. On se marie, mariage, mariage éthique. Et le mariage, nous, l'éthique personnelle. Et puis le mariage chrétien. Il y a un sacrement. Vous voyez, tout à fait deux choses tout à fait différentes. Et c'est vrai, c'est deux choses tout à fait différentes. Est-ce que c'est suffisant, cette grosse distinction que tout le monde fait et qu'il faut faire du reste, hein, faut faire. C'est évident qu'il y a deux aspects tout à fait différents. Quelle est la morale de Mitterrand? Quelle est la morale de la politique française? Je cherche des dénominateurs communs. Et puis la morale du chrétien, avec l'enseignement du pape. Je prends l'exemple tout à fait actuel, venez. L'enseignement qu'a donné Ratzinger sur le point de vue de la fécondité artificielle, est-ce que ça touche Mitterrand? Est-ce que ça touche même d'autres hommes politiques qui ne sont pas dans la ligne de Mitterrand? Vous direz, ça regarde les chrétiens. Vous voyez, il y a une coupure. Séparation complète. Et cette séparation aussi, c'est-à-dire morale, laïque. Y a-t-il une morale laïque? Au plan philosophique, hein, je me place au plan philosophique, devons-nous trouver des degrés éthiques? Eh bien, je dis oui. Et je dis que la morale laïque, comme telle, est une abstraction qui est fausse. La morale est une morale humaine. Et nous devrions, si on faisait un peu de politique, rappeler ça, que la morale laïque, c'est faux. Parce qu'en réalité, c'est plus une morale. Et le mariage devant le maire, c'est pas très bien ce que c'est. C'est très conventionnel. C'est pas du tout pour garder l'institution de la famille. Non, non. Ah, vous pourrez vous divorcer quand vous voudrez. Hein. Vous inquiétez pas. Vous aimez maintenant très bien vivre ensemble. Très bien, c'est mieux. C'est mieux, on dira, c'est mieux que de vivre en dehors. Non, on maintient quand même un tout petit peu de ça. Mais si ça ne marche pas, vous pourrez vous séparer. Puisque la loi prévoit le divorce. Et ça, c'est la morale laïque. Est-ce que le divorce est moral? Et c'est là où c'est terrible. On est en face d'une laïcisation telle que la morale disparaît complètement. Donc, au plan philosophique, j'essaie d'étudier le point de vue d'une morale, d'une éthique. Une éthique humaine. Et j'ai dit, cette éthique humaine a deux sources, ou plus exactement, s'appuie sur deux expériences. Les deux grandes expériences de la responsabilité. L'amour d'amitié, le devoir. Ça, je crois qu'on peut comprendre ça. Y a-t-il une éthique distincte de distingue pas séparée. Éthique religieuse. Et y a-t-il un troisième degré, donc un. Celui-ci, c'est pour tout le monde. Tout homme digne de ce nom doit respecter l'éthique humaine. Ici, tout homme un peu plus évolué doit arriver à l'éthique religieuse. Et troisième point d'évolution, l'éthique chrétienne. Alors ça, c'est le sommet. Il faut le mettre en sens inverse. Parce que c'est pas la case. Vous avez deux et trois. C'est ça que j'appelle les degrés éthiques. Alors, comment justifier ça philosophiquement? Parce que je pourrais vous dire, oui, voilà ce que j'ai découvert, voilà ce qui me semble intéressant. Et ça me semble très intéressant. Parce que, vous voyez, je prends un exemple pour que vous compreniez. Quand il s'agit par exemple de l'avortement, quand vous regardez les arguments que donnent ceux sur l'avortement, tout est mêlé. Or, il y a des arguments au niveau éthique humaine. Il y a des arguments au niveau éthique religieuse. Il y a des arguments au niveau éthique chrétienne. L'indissolubilité du mariage, puis-je la montrer au point de vue éthique humaine? Puis-je la montrer au point de vue éthique religieuse? Et puis, au point de vue éthique chrétienne. Les arguments ne sont pas les mêmes. La fécondation artificielle, in vitro, appliquée à l'homme, appliquée à la femme, est-ce que, au point de vue éthique humaine, puis-je l'accepter? Au point de vue éthique religieuse, puis-je l'accepter? Les arguments sont différents. Et comme c'est très important d'avoir ces trois niveaux. Alors, il s'agit de découvrir ces trois niveaux. Trois niveaux de responsabilité. Alors, je peux dire tout de suite, trois niveaux de responsabilité. Dans l'éthique humaine, je suis responsable en face de l'homme. C'est-à-dire, je suis responsable en face de mon ami. Et je suis responsable en face de la communauté. Critère de responsabilité. Ça, c'est vrai. Dans l'éthique humaine, je suis responsable en face de l'ami. Puisque je suis parti de l'amour d'amitié. Je dois respecter mon ami. Et en face de la communauté. Tu dois faire ça. Donc, deux critères de responsabilité. Dans l'éthique religieuse, quel est le critère de responsabilité? C'est que Dieu, créateur, tout est en référence du Dieu créateur. Et dans l'éthique chrétienne, le mystère du Christ, sauveur. Vous avez donc trois critères de responsabilité, facile à comprendre. Mais pour illustrer ça, je prends un exemple important et très actuel. La différence face à la mort. C'est très curieux et c'est très intéressant de voir que face à la mort, vous avez trois attitudes différentes. Et je prends exprès la mort parce que justement, c'est quelque chose d'ultime. C'est un certain absolu. Face à la mort, vous avez trois attitudes différentes. Vous avez une attitude humaine. Vous avez une attitude religieuse. Vous avez une attitude chrétienne. Qui vous montre tout de suite les trois niveaux. Les trois niveaux de responsabilité. Dans l'éthique humaine, qu'est-ce que c'est que la mort? La mort de l'ami. humainement parlant, il peut se mettre solitaire, ermite. C'est très vrai. Parce que les hommes sont tellement peu fidèles qu'on aime mieux s'isoler. Mais voyez, il appartient quand même toujours à une communauté. Et d'une certaine manière, il peut très bien ne pas la reconnaître. On peut avoir quelqu'un qui vit solitaire, complètement solitaire, ayant brûlé toutes ses pièces d'identité, en disant, moi, la carte d'identité, parce que la carte d'identité, c'est reconnaître un État, c'est reconnaître une communauté. Quand vous avez une carte d'identité sur vous, ça prouve que vous avez reconnu une communauté. Si vous ne voulez pas reconnaître une communauté, vous prenez votre carte d'identité, vous la déchirez, vous la brûlez. Ne le faites pas. Possible. Alors à ce moment-là, on vit en sauvage. Dans une montagne, dans une forêt. Le plus loin possible. Ça peut se faire. Il y en a qui vivent comme ça actuellement. Ça, c'est sûr. Alors, face à la mort, celui qui vit seul, comme ça, il est responsable de sa vie, et puis tout. A-t-il le droit de se supprimer ? Je suis seul au monde. J'ai renvoyé tout, promené tout le monde. A-t-il le droit de se supprimer ? Celui qui est l'ami de quelqu'un. Et celui qui fait partie d'une communauté, vous voyez, vous avez déjà trois niveaux de responsabilité dans la pure éthique humaine. C'est très important, ça, parce que ça montre bien que l'éthique, elle est analogique, vous voyez. Vous voyez tout de suite des degrés. Et face à la mort, vous voyez tout de suite. Vous raisonnez tout à fait différemment face à la mort si vous êtes ami de quelqu'un. L'ami est gardien de ma vie. Et parce que je suis l'ami de quelqu'un, je ne peux pas me supprimer. Ça ferait trop de misère, trop de chagrin, trop de tristesse à mon ami. Et quelquefois, c'est la seule chose qui me maintient dans la vie. Il y a un lien de fidélité. Et ce lien de fidélité m'empêche de me suicider. C'est important, ça. Je vois donc que l'amour d'amitié peut aller jusqu'à empêcher le suicide. Quelqu'un qui n'en peut plus, vous voyez, qui souffre et qui n'en peut plus, à cause de cet amour d'amitié, il ne fait pas. Pourquoi ? Parce qu'il est lié à l'autre et que la mort serait une rupture. Et qu'il considère que l'amour d'amitié est supérieur à la mort, supérieur à la vie, et donc à la mort. En fonction de l'amour d'amitié, je ne peux pas disparaître. Et je ferai tout ce que je peux pour ne pas disparaître. Avant mon ami, évidemment. Si lui disparaissait en même temps que moi, le problème reviendrait. Est-ce que le solitaire peut attenter à sa vie ? Est-ce que deux amis qui s'aiment beaucoup ont-ils le droit de dire nous allons nous supprimer en même temps ? C'est-à-dire que l'un tuera l'autre. La réciprocité dans la mort est une des choses très particulières. C'est du reste très intéressant à regarder. C'est comme le combat de deux chiens, il reste que. C'est très curieux parce que ça montre que la mort n'a pas de réciprocité. C'est un franc, c'est en dessous de l'amour d'amitié. Puisque tout ce qui est dans l'ordre d'amour d'amitié implique une réciprocité. s'assaner mutuellement la mort. Vous voyez ce que ça ferait? Pas possible. Inventez la chose. Hein. Ne faites pas, n'exécutez pas. Un signal donné. Il faudrait être suffisamment loin l'un de l'autre pour qu'un signal donné, on puisse appliquer, se viser. C'est bon, vous voyez? Alors, suffisamment loin. Alors, à ce moment-là, on peut le faire. Ici, on est tout proche. C'est curieux, ça. Il n'y a pas de réciprocité dans la mort. On meurt toujours seul. La mort reste une limite de l'amitié, mais l'amitié ne légitime pas la mort. Je n'ai pas le droit de demander à mon ami de me supprimer parce que je souffre beaucoup. Pourquoi? Parce que la mort est au-delà de l'amour d'amitié. Il y a là un très grave problème qui montre les limites de l'éthique humaine. Reposant sur l'amour d'amitié, est-ce que l'ami a le droit de me donner la mort? Ou est-ce que l'ami n'a pas le droit de me donner la mort? Donc, l'éthique humaine est limitée par le problème de la mort. C'est ce que je crois, du reste. Et l'éthique humaine, uniquement comme éthique humaine, vous voyez, ne me donne pas de droit tuer mon ami et de me suicider après. Parce qu'en me suicidant après, je fais un acte personnel qui est en dehors de l'amitié. Et en donnant la mort, je supprime l'amitié. C'est très curieux, ça. Donc, au niveau éthique humaine, la mort apparaît comme une limite extrinsèque à l'amour d'amitié. Et donc, l'amour d'amitié ne domine pas la mort. Au niveau éthique communautaire, c'est le même problème. La communauté a-t-elle le droit de supprimer un de ses membres? Tout le grand problème de la peine de mort. C'est un très grave problème. Est-ce que la communauté comme telle a le droit de supprimer un de ses membres? Et alors là, vous prenez la communauté politique, la communauté la plus parfaite. A-t-elle le droit de supprimer un de ses membres? Si elle a le droit de supprimer un de ses membres, ça prouve qu'elle domine la mort. Est-ce que la communauté domine la mort? Je pose ce point d'interrogation, je ne crois pas. La communauté comme telle ne domine pas la mort. La mort devient une limite. Et celui qui est seul, anarchique, qui s'est réfugié dans la forêt, dans la montagne, a-t-il le droit de se donner la mort? Il s'est réfugié parce que personne ne l'aime. Et donc sa morale est une morale uniquement repliée sur elle-même. Est-ce que vous avez le droit, dans un point de vue d'éthique humaine, par amour pour vous-même, de vous donner la mort? Non. Parce que l'amour que vous avez pour vous-même demeure intentionnel et non pas substantiel. Je crois que c'est la raison. Et donc vous devez respecter la vie, votre vie, en premier lieu. Vous n'avez pas le droit de vous donner la mort. Vous voyez, comme ça pose un problème difficile. La mort face à ces trois niveaux de l'éthique humaine, l'amour d'amitié, la communauté et la solitude. Réfléchissez là-dessus. La mort face au point de vue religieux, ah, c'est tout à fait autre chose. Là, je peux donner la raison pour laquelle Je dois respecter la vie. C'est que mon âme est créée directement par Dieu. Et en éthique chrétienne, a fortiori. Tandis qu'en éthique religieuse, ça m'apparaît comme une limite.